Mais c'est maintenant Gérard Noiriel, spécialiste notamment de l'histoire de l'immigration, mais qui vient de publier plus récemment un livre, Les Fils maudits de la République, l'avenir des intellectuels en France, où il s'interroge sur la posture de l'intellectuel, notamment par rapport aux politiques. Et donc, je vous donne tout de suite la parole.
Merci. Je voulais tout d'abord m'excuser auprès de vous. Je vais faire une chose que je ne fais pas souvent, mais je vais lire en fait mon texte, parce que là je suis, disons, en train de terminer un livre, et donc, ceux qui sont passés par cette expérience savent que la dernière ligne droite est toujours extrêmement difficile, le nombre d'heures de sommeil à inscrire au passif est très grand, donc j'aurais peur d'être confus si je parlais spontanément. Je suis assez frustré d'ailleurs d'être en introduit à cette situation parce que je me réjouissais de ces journées, d'en parler avec Benoît, et ça touche des questions qui m'intéressent au plus haut point. Je vais essayer de le montrer tout à l'heure. Donc j'interviendrai ici avec, je dirais, plusieurs casquettes, une casquette d'historien d'immigration, vous avez présenté, également la casquette de président en exercice du comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Et également, j'en dirai un mot tout à l'heure, en tant que membre la Cité nationale d'histoire de l'immigration, qui va ouvrir ses portes officiellement au mois d'avril 2007, raison d'ailleurs pour laquelle je m'active pour mon livre, qui va sortir avant, qui correspond, si vous voulez, à un enjeu, puisque j'avais écrit un article dans Le Monde en 1989, et c'est pas nouveau, dénonçant justement l'absence de lieu de mémoire sur l'immigration. Donc, c'est passé dans les faits, avec toute une série de problèmes qui se posent sur la lecture politique qui en est donnée aujourd'hui, puisque évidemment, à l'époque où j'avais écrit ce papier, on pensait que c'était plutôt un gouvernement de gauche qui mettait ça en œuvre. Finalement, les choses ont évolué autrement. Donc et en même temps, il y a énormément d'avancées par rapport à l'enseignement de l'histoire de l'immigration, si vous voulez, c'est un point dont on pourra parler. Et si on ne le fait pas aujourd'hui, nous avons tout l'avenir devant nous. Puisque, à la fois pour le CUH, je vous signale, nous avons un site internet et qu'il y a un espace de dialogue et de discussion. Et d'autre part, eh bien, la Cité d'immigration est aussi un espace où nous comptons fermement développer nos rapports avec les enseignants de toujours. Et avant de quand même d'aborder le contenu précis de ce que je voulais dire, j'aimerais quand même réagir à ce que vient de dire François Dost, parce que je ne me reconnais pas dans la présentation qu'il a faite du comité de vigilance. Je veux dire, ce n'est pas du tout un lieu qui a pour but de défendre le corporatisme professionnel des historiens. C'est tout le contraire. Vous l'avez d'ailleurs rappelé tout à l'heure. Donc je vous renvoie à l'article qu'on a pu écrire sur le site. Et simplement, je ne veux pas alimenter un débat parce que d'abord, ça fait très longtemps que nous discutons ensemble avec François Dost, et il est un de ceux qui m'ont convaincu qu'il y avait des limites au débat, je dirais franchement, hein, et qu'en bonne partie, nous étions, je me mets aussi dedans, hein, c'est pas, c'est chacun sélectionne en fait dans les propos des autres ce qu'il arrange pour persévérer dans ce qu'il croit. Donc moi, je plaide, c'est ce que j'ai retenu moi de Ricoeur, pour une démarche compréhensive. Ça, pour moi, le sens de l'herméneutique, c'est-à-dire une démarche qui va restituer l'ensemble de l'argumentation de la personne politique. Si on ne fait pas ça, on peut tout dire et on peut, je dirais, utiliser les arguments ou les textes pour simplement défendre son commerce. Donc, c'est l'une des missions, d'ailleurs, que nous nous sommes données en créant ce comité de vigilance. Alors, on peut ironiser sur le mot vigilance, il a, à mon avis, des lettres de noblesse historique à faire valoir. Mais je veux dire, il y a au moins une démarche collective, parce que ce qu'on nous propose, c'est, est-ce que c'est Ricoeur qui va être l'instance de vigilance? À partir du moment où on intervient dans un débat public, forcément, on est dans une logique de vigilance, parce que, au sens où on l'entend, c'est-à-dire un espace critique, on va donner une position, on va mettre en garde, etc. C'est exactement ce que François Dost a fait tout à l'heure, d'ailleurs. Donc il n'y a pas, à ce moment-là, cette espèce de procès d'intention du corporatisme, qui me semble relever, je le dis franchement, de la basse polémique. Mais derrière cette question, si on veut l'élever un petit peu, effectivement, il y a des différences. Et elles sont, en fait, on peut tout à fait les exposer de manière légitime, qui touchent à la conception qu'on peut avoir de ce que c'est l'histoire et de ce que c'est que la mémoire. Pour ma part, je me suis toujours battu pour des raisons que je pourrais exposer, qui tiennent aussi à la politique et à l'expérience. Je sais pas, c'est moi, on appartient à une génération, il a évoqué Vladimir Ilitch. on va évoquer Staline, si vous voulez, dans justement les usages qui ont pu être faits dans le passé de la science pour servir certaines causes politiques. Moi, c'est une chose qui m'a marqué, disons, et j'ai toujours été vigilant sur cette question-là. Cette vigilance, elle passe par une clarification, une distinction. On ne peut pas mettre sur le même plan un énoncé ou un discours à caractère historique, c'est-à-dire qu'une prétention scientifique, et des jugements de valeur. Et l'une des différences majeures entre l'histoire et la mémoire, pour moi, c'est autour de cette question. L'un des enjeux du débat actuel entre les historiens, l'une des divergences de fond que j'ai pour ma part avec la pétition de 2019, c'est que justement on trouve dans ce groupe un amalgame entre des gens qui font des choses extraordinairement différentes. Une pétition avec un intitulé historien dans laquelle on va trouver Alain Decaux, un journaliste, des écrivains, des universitaires, etc. Pour moi, c'est une forme de domination symbolique, si on veut reprendre une expression de Bourdieu, contre laquelle nous devons intervenir. Voilà. Donc la vigilance, elle est par rapport à ceux d'en haut, pas par rapport, évidemment, à ceux d'en bas. Au contraire, l'idée, c'est de faire émerger un savoir historique plus vaste, et qu'il ne soit pas enfermé sous une chape de plomb où on a toujours les mêmes historiens qui parlent au nom du nu historien. Peut-être que, je sais pas, le plus jeune d'entre vous ne réalise pas, mais ça a été un grand succès, le fait que dans ce débat, des gens comme nous, qui sont complètement marginaux, nous puissions exister, c'est-à-dire que le monde vous téléphone pour vous dire qu'est-ce que vous pensez d'eux, c'est quelque chose d'inouï. Avant, c'était facile, vous prenez le téléphone, René Raymond, qu'est-ce que vous allez nous dire? Pierre Nora, voilà, les historiens avaient parlé. En gros, la démocratie, c'est diversifier les points de vue. Ça, c'est... Là, ça ne plaît pas, bien évidemment. Mais moi, je trouve que ça, c'est très positif. Et donc là, on enrichit le débat. Bon, ça, c'est un peu... Je n'ai pas prévu de le dire, mais puisque la question a débordé là-dessus, je le dis. Maintenant, donc, je vais en venir à mon propos. Et je commencerai par la manière dont, moi-même, je distingue l'histoire et mémoire. Parce qu'il faut dire, là, sans entrer trop dans des choses trop compliquées, c'est que moi, je me situe dans une perspective qu'on peut appeler pragmatique, pragmatiste, si vous voulez. C'est-à-dire, j'ai toujours réagi sur ces questions-là à partir de mon travail empirique. C'est-à-dire, en gros, quels sont les outils dont j'ai besoin pour faire face aux tâches que je dois résoudre. Voilà, en gros, le point de départ. Et ça s'est posé très concrètement en commençant mes recherches sur l'histoire de l'immigration, puisque je ne pouvais pas ignorer que je travaillais là-dessus aussi parce que j'avais des intentions civiques, c'est-à-dire aller au-delà, simplement pour produire des connaissances. Et donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a des préoccupations de type civique, eh bien on bascule d'une recherche scientifique, je dirais neutralisée, à une dimension mémorielle. J'ai commencé moi-même d'ailleurs par créer une association. J'en dirai un mot peut-être tout à l'heure, mais une association qui avait pour but de recueillir la mémoire ouvrière et la mémoire de l'immigration dans la région de Longwy, où j'étais enseignant dans le secondaire à l'époque. C'était à la fin des années 70, à début des années 80, au moment des grandes grèves ouvrières de cette région de la sidérurgie. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il m'a fallu bricoler des outils permettant donc de clarifier un petit peu les enjeux et les pratiques. Mais moi, je suis weberien jusqu'au bout des ongles, je dirais, c'est-à-dire je ne crois pas aux grandes définitions universelles qui seraient passe-partout. Je crois que, en fonction justement des tâches qui sont les nôtres, des positions qu'on occupe, des compétences que l'on a, eh bien, on bricole ces références, et c'est très bien comme ça. Mais encore faut-il que les interlocuteurs respectent aussi la démarche qu'on a pu adopter sur nous. Donc, ça a d'ailleurs été, il y a une sorte de cohérence, malgré tout, je crois, dans ce que j'ai essayé de faire. L'une des raisons pour lesquelles j'ai fait partie des 5 ou 6 premiers signataires de la pétition contre la loi le 23 février 2005, qui est parue dans Le Monde, c'était très clairement parce que, à mes yeux, il y avait un empiétement de la part du pouvoir politique dans les questions d'enseignement et de recherche, et non pas du tout pour intimer l'ordre aux politiques de ne plus s'occuper de mémoire, ce qui me semble une prétention extraordinaire de la part des historiens. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des lois mémorielles, il y en aura toujours. Là, on peut intervenir en tant que citoyen, c'est tout à fait légitime, mais intervenir en tant qu'historien, c'est, je pense, se placer sur un terrain de la confusion, c'est d'utiliser une compétence dans un domaine pour justifier une position une autre, c'est ce que Pascal appelait la tyrannie. Je suis peut-être pascalien de ce point de vue. Donc voyons très concrètement, alors enfin concrètement, disons plus précisément, comment on peut clarifier à mes yeux les rapports entre mémoire et histoire. Alors là, il y a un fossé qui sépare deux angles d'attaque et qui sont incommensurables, je dirais, les positions sont incommensurables. C'est une position de type philosophique et une position de type sociologique. Alors là, je m'inscris dans une position de type sociologique, et je ne comprends pas convertir les philosophes à la sociologie. Je pense que si ça s'inverse, ça ne marcherait pas tellement non plus. Donc, pour dire les choses simplement, on peut considérer que tous les êtres humains ont une mémoire qui est constitutive de leur identité personnelle et de l'identité collective des groupes auxquels ils appartiennent. Chacun de nous possède donc une mémoire qui lui est propre, individuelle. Elle est faite des souvenirs laissés par les événements, les bonheurs ou les souffrances que nous avons vécues. Elle conserve les traces du passé que nous avons intériorisées, qui font notre personnalité et déterminent nos sentiments d'appartenance. Je m'appuie là sur le livre classique de Maurice Halbach, qui est souvent travesti d'ailleurs parce qu'on lui ôte sa dimension sociologique. Donc, un petit peu ce qu'on pourrait dire de l'ordre de l'expérience vécue, de l'ordre des souvenirs qui sont uniques. Si l'on se place au niveau de la personne, il n'y a donc jamais de mémoire totalement identique. Toujours tendance à oublier ça. Pour qu'une mémoire collective puisse naître, il faut évidemment que plusieurs individus aient gardé le souvenir des mêmes expériences vécues. Néanmoins, une mémoire collective n'est jamais le reflet fidèle des mémoires individuelles. Le passage de l'individuel au collectif nécessite tout un travail de sélection qui privilégie certains aspects du passé au détriment des autres. Ce travail de sélection est réalisé par des gens qui parlent au nom de leur groupe d'appartenance. Les sociologues appellent ces individus des entrepreneurs de mémoire. Grâce à eux, les souvenirs disparates, souvent flous, voire confus, que chaque membre d'un groupe a gardé d'un passé commun, deviennent plus homogènes et acquièrent une visibilité dans l'espace public. C'est extrêmement important, la notion d'espace public. J'insiste là-dessus. Je vous renvoie, si vous tenez la philosophie, à ce que Habermas a écrit là-dessus. C'est-à-dire, très souvent, les gens oublient la spécificité de l'espace public. C'est pas du tout la même chose, d'avoir une parole en privé, ou même dans une salle, comme ça, en petit groupe, et d'avoir accès à l'espace public. Il y a un enjeu de pouvoir, là, qui est tout à fait déterminé. Donc, ce travail de sélection et de construction mémorielle vise à conforter l'identité collective du groupe, le plus souvent contre des entreprises mémorielles concurrentes. Ça, c'est un point très important aussi dans la sociologie de la mémoire, c'est cette notion de concurrence, hein, et qui fait que il n'y a pas de place pour tout le monde, si on veut simplifier. C'est pourquoi Maurice Halbach a insisté sur le fait que toute mémoire collective se construit en fonction des enjeux du présent. La deuxième chose qui m'importe, c'est de souligner que pendant très longtemps, historiquement, ce rapport mémoriel au passé a exercé une domination sans partage. C'est l'une de mes nombreuses divergences avec Piamora, la position d'un Michelet, par exemple, dont je ne pense pas qu'on puisse l'inscrire dans une sorte de continuité historiographique qui nous amènerait jusqu'aujourd'hui. Parce que jusqu'à la fin du XIXe siècle, la quasi-totalité des ouvrages dits historiques étaient rédigés par des entrepreneurs de mémoire. L'essentiel de la production, le test qui était écrit là-dessus, je vais insister, mais était fourni par des nobles désœuvrés, des membres du clergé, des avocats, etc. Lorsque les aristocrates ont été chassés du pouvoir, après la révolution de 1830-1848, leur premier réflexe a été d'utiliser l'arme de la mémoire pour tenter de discréditer la révolution française et donc le camp républicain. À l'époque, donc, comme je le disais, même des historiens universitaires comme Michelet ou Augustin Thierry produisaient un savoir de type mémoriel au sens où ils répondaient à des préoccupations partisanes en rapport direct avec les enjeux politiques de leur temps. La Troisième République a voulu rompre avec cette logique en réformant l'université de façon à confier l'étude du passé à un corps d'historiens professionnels uniquement animé par le souci de la vérité. Je ne dis pas qu'ils avaient
raison. Je dis que c'était les intentions qui se mettaient codifiées dans la loi. Nous, en tant qu'historiens, nous sommes aussi soumis à la loi. La Troisième République, donc, je viens de le dire, la France, à ce niveau-là, n'a fait que suivre, à cet égard, une tendance commune à la plupart des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, était convaincue, ça tout à fait caractéristique de cette période, que la science et la démocratie pouvaient faire bon ménage. En gros, c'est ce qu'on appelle le positivisme. Il est souvent caricaturé parce que ça sert d'insulte aujourd'hui plutôt que d'élément d'analyse. En gros, le deal, le contrat républicain qui était posé à ce moment-là, les citoyens acceptent qu'une partie de leurs impôts serve à rémunérer des historiens professionnels, car cette indépendance matérielle, qui n'était pas auparavant dans le temps, est nécessaire pour produire des connaissances sur le passé, qui ne sont pas motivées par le souci de justifier tel ou tel intérêt partisan. Évidemment, ils sont payés par l'État, ils sont dépendants de l'État, ils ne sortent jamais de la dépendance. Le problème, c'est de savoir comment ils se réorganisent au quotidien. Dans cette perspective, la différence majeure entre l'histoire et la mémoire ne réside pas dans la méthode ou dans le rapport aux archives, elle se situe dans le type de questionnement adressé au passé. Les producteurs de mémoire ont surtout le souci de sauver de l'oubli ou de réhabiliter les individus ou les groupes qui ont leur faveur, alors que le rôle de l'historien, qui est énoncé publiquement, consiste à élaborer des questionnements qui lui permettront de mieux comprendre, voire d'expliquer le passé, avec l'espoir que cela puisse aider les hommes d'aujourd'hui à mieux vivre, comme disait Marc Bloch. Et le livre de Marc Bloch, Apologie de l'histoire, représente l'expression la plus forte de cette conception du métier d'historien. Et ce qu'il faut ajouter immédiatement, c'est que la distance que l'historien doit prendre à l'égard des enjeux de mémoire ne justifie nullement un repli dans la tour d'ivoire. Les universitaires sont, et dès le départ, ils ont été définis comme des enseignants-chercheurs. Cela signifie qu'ils doivent s'efforcer de diffuser leurs connaissances spécialisées grâce à des moyens pédagogiques adéquats. Lorsqu'ils accomplissent cette partie de leur mission, les historiens ne sont plus dans le domaine de la science historique pure, ils interviennent à leur tour dans les enjeux de mémoire. En mettant à la portée des citoyens le savoir qu'ils ont élaboré, ils contribuent, je reprends toujours l'argumentation républicaine, ils en contribuent à enrichir la mémoire collective de l'humanité. Et ils contribuent, disait Marc Bloch, à diffuser ce qu'on appelle l'esprit critique, grâce auquel les porteurs de mémoire examineront leur passé avec davantage de recul et plus de tolérance à l'égard des autres. En distinguant clairement histoire et mémoire, on comprend mieux les liens étroits qui unissent ces deux types de rapports au passé. La dimension pédagogique que je viens d'évoquer illustre la liaison en aval, traduire les résultats de la recherche dans un langage pédagogique accessible à des non-spécialistes, mais il ne faut pas oublier non plus que cette relation histoire-mémoire s'établit en amont. Les historiens, évidemment, ne vivent pas en dehors de la société. Ils sont eux-mêmes pris dans les enjeux de mémoire qui dominent leur temps. Sur le plan personnel, ils sont porteurs de la mémoire des groupes dont ils font ou ont fait partie, l'origine sociale, la trajectoire, le sexe, l'appartenance nationale, voire régionale ou religieuse, la position institutionnelle, tous ces facteurs influent sur leur vision du monde, même lorsqu'ils s'efforcent de les tenir à distance. C'est pourquoi, sur tous les sujets importants, les points de désaccord entre spécialistes sont nombreux. Il faut donc récuser qu'il existerait un savoir historique, unique à partir duquel on pourrait expertiser la mémoire. Dans la réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées et entremêlées. Le fait que les historiens soient pris dans les enjeux de mémoire de leur époque explique que, bien souvent, c'est sous l'aiguillon de la mémoire que la discipline s'ouvre à de nouveaux objets. Ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à la Shoah, mais c'est bien plus général. Toute l'historiographie pourrait être présentée comme ça. Je ne veux pas faire un historique, mais j'avais pris l'exemple d'ailleurs de la Shoah, mais on peut continuer avec même l'histoire du mouvement ouvrier. L'histoire du mouvement ouvrier, au début, elle a été faite par des militants. L'histoire des femmes, c'est exactement la même chose. Et évidemment aussi l'histoire de l'immigration. Juste un phénomène du même genre. Tout cela montre que l'histoire et la mémoire sont deux rapports au passé qui ont chacun leur logique propre et qu'on ne peut pas hiérarchiser. Ce qui m'importe le plus, c'est de distinguer des différences dans des formes de savoir. Hein, parce que si on ne le fait pas, on est dans le confusionnisme absolu, et à la limite, effectivement, je voudrais dire, je prêche pour ma chapelle, mais c'est sûr, parce que je pense que nous avons à justifier le métier que nous faisons. Nous ne sommes pas universitaires, enseignants ou autres de droit divin. Dans une démocratie, nous devons pouvoir argumenter dans l'espace public pour justifier ce qui fait la spécificité du métier que nous accomplissons. Et si nous sommes à dire il n'y a plus de vérité historique, il n'y a plus de connaissance historique, c'est les journalistes qui nous apprennent l'histoire, l'histoire et mémoire c'est pareil, etc., et bien, il faut en tirer des conclusions et supprimer les postes. Je veux dire, on ne peut pas, il y a une sorte, je trouve, de à la fois d'hypocrisie et de cynisme quelque part, à se battre par ailleurs, comme nous faisons tous, maintenir son gagne-pain, et puis de l'autre, aller comme ça scier la branche sur laquelle on est assis. C'est une forme d'irresponsabilité qui, c'est vrai, là, l'analyse critique implique beaucoup toute une série de facteurs, peut-être plus que d'autres, des raisons à vouloir justifier le métier que je fais. Donc, distinguer les deux, ne pas les hiérarchiser et montrer les imbrications entre les uns et les autres, entre l'une et l'autre, en histoire et mémoire, voilà la position qui est la mienne, que je ferai partager par les gens qui sont au sein du CVUH. Donc nous n'avons pas, et moi je me suis engagé assez tôt contre certains historiens du temps présent là-dessus, à aller faire la leçon aux producteurs de mémoire. C'est bien aussi pour ça que nous n'avons pas à faire la leçon aux hommes politiques. Nous avons à préserver notre autonomie, ce qui est fort différent. Pour en terminer avec ces remarques sur les rapports entre histoire et mémoire, je voudrais dire un mot sur la question de l'engagement de l'historien. Parce qu'évidemment, elle est en filigrane, c'est un enjeu essentiel, on le voit bien. Eh bien, au sein de notre communauté professionnelle, il existe un petit nombre d'individus qui accordent une importance particulière à la fonction civique de leur métier. Je dis bien un petit nombre, hein, parce que c'est pas la majorité dans la profession, on ne peut pas voir toute notre profession à partir du petit noyau qui se fait marquer dans la presse. Hein. Ce sont généralement des historiens qui ont été politiquement engagés dans leur jeunesse et qui continuent, en tant que citoyens, à participer activement au débat public. Cet intérêt pour la politique les a incités à travailler sur des sujets en rapport avec leur passion militante. Pour ces historiens, la fonction sociale de l'histoire va au-delà d'une simple transmission d'un savoir par des moyens pédagogiques. Ils espèrent que les connaissances qui sont produites permettront aux citoyens, disons, et aux gouvernants, d'une manière ou d'une autre, à mieux remplir leur rôle. C'est pourquoi ils interviennent fréquemment dans les débats d'actualité au nom de leurs compétences scientifiques. Et il me semble qu'il y a deux manières de concevoir ce type d'engagement. Je pense aussi que toutes les deux sont nécessaires dans une société démocratique, même si elles sont en différentes, voire contradictoires. La première s'inscrit dans ce que j'appellerais une logique de l'expertise. Le savoir historique est alors mobilisé pour répondre directement aux questions qui préoccupent les gouvernants, les élus, les dirigeants syndicaux, etc., en but d'élaborer la meilleure des politiques possibles. Si je voulais vous donner dans le domaine dans lequel je travaille, quelqu'un qui incarne, qui est un ami proche, hein, c'est Patrick Veil. Hein. Il a été dans cette logique, vous savez peut-être, puisqu'il a été proche du cheminement, il a contribué à élaborer une des lois récentes sur l'immigration. Moi, je m'inscris plutôt dans une autre perspective, qui est celle qu'on pourrait appeler de la pensée critique. Là, le rôle de l'historien, du philosophe ou autre, est d'intervenir dans le débat public pour contester la façon dont les intellectuels médiatiques, comme on dit, les journalistes ou les hommes politiques, posent les problèmes de société. Il mobilise les connaissances savantes qu'il a élaborées, souvent appris dans le travail, pour tenter de faire entendre d'autres voix que celles des élites et de la France d'en haut, en posant autrement les questions qui sont au cœur de l'actualité. Voilà moi comment j'ai articulé les deux. C'est dans la critique du faux problème, si vous voulez, de l'immigration, une tentative de poser les problèmes autrement que ce qu'on connaît habituellement. Voilà un petit peu le cadre général. Maintenant, je voudrais, dans la deuxième partie de cet exposé, aborder plus précisément cette question des rapports entre histoire et mémoire à propos de l'immigration et du rôle que les historiens peuvent jouer dans la mémoire collective. Alors là, ce que je vais vous dire est un peu axé sur cette question de citer l'histoire de l'immigration, puisque le papier que je lis En fait, il est paru dans Rome et Migration au sujet de cette institution. Il est bien certain que quand un historien s'engage, comme je l'ai accepté de le faire, dans ce comité scientifique d'une cité nationale d'histoire de l'immigration, il ne va pas au CNRS. Ce n'est pas un centre scientifique. C'est-à-dire, on le sait dès le départ. Donc, on est bien là dans une logique principalement mémorielle de transmission de connaissances et non pas de recherche professionnalisée. Hein? Alors, les deux types de problèmes que pose ce lien, les voici à mon avis. Le premier est de savoir comment conjuguer l'autonomie de la recherche scientifique avec le type d'engagement que suppose tout investissement à caractère mémoriel. Le problème se pose tout particulièrement dans le cadre de la Cité nationale d'immigration, puisque dans la lettre que le Premier ministre avait rédigée pour la mission qui a été confiée à Jacques Toubon, qui est l'actuel président de ces lieux, eh bien, il était dit que le projet visait à ressouder la cohésion nationale. Hein, lettre du 10 mars 2003. Ce lieu de mémoire aura donc pour fonction de conforter le nous national, ce qui en soi, évidemment, pour l'historien, un peu contradictoire avec sa démarche. L'historien ne dit pas nous, sauf qu'il y en aura, mais finalement, alors il dit le nous académique, mais le nous national, non, c'est tout le problème du pronom, on voit Norbert Elias. Mais à la différence de nombreuses autres structures du même type, cette cité nationale de l'immigration nous invite à honorer, je dirais, les Français venus d'ailleurs. Mais, alors que jusqu'ici, la République avait constamment glorifié la France immémoriale, enracinée, issue du passé pré-industriel de la nation. L'importance de cette initiative tient donc au fait que, à mon avis, pour la première fois, les plus hautes instances de l'État reconnaissent que la France est un vieux pays d'immigration et inscrivent cette réalité dans le patrimoine national. Donc, en tant qu'historien spécialiste de cette question, je pense qu'il est de mon devoir civique de soutenir cette initiative. Un devoir civique, ça ne se prouve pas par des arguments scientifiques. C'est un choix, c'est un engagement, il peut très bien contesté par d'autres, mais là on sera sur le terrain de la politique, pas sur le terrain de la recherche. Donc, malgré tout, évidemment, cet enjeu de mémoire, comme tout en lieu de mémoire, il est inscrit dans une problématique présente, il est lié à des enjeux politiques du présent. Je pense que vous n'ignorez pas les enjeux politiques de l'immigration dans le contexte actuel. Pour les uns, cette initiative de Cité nationale d'immigration est la preuve que l'actuel gouvernement mène une politique d'intégration, c'est une expression consacrée, alors que pour les autres, ça c'est la droite et la gauche, considèrent que cette valorisation du passé a pour but de masquer les mesures répressives qui sont prises par le ministère de l'Intérieur à l'égard des immigrants d'aujourd'hui. Ce que j'ai dit plus haut concernant l'autonomie du monde savant dans une société démocratique permet de comprendre qu'un historien peut parfaitement soutenir la dimension civique d'un tel lieu de mémoire sans cautionner pour autant les interprétations politiques qui en sont données. Et là, ça ouvre sur une réflexion qu'on peut développer, mais qui ne peut pas, la développer d'ailleurs, parce qu'il faudrait qu'on y réfléchisse ensemble. C'est cette idée de cautionner. Ça a servi à des tas de choses, si vous voulez, et a complètement, à mon avis, contribué à paralyser en partie la pensée critique, les intellectuels critiques. Finalement, ça devient une sorte de facilité, rester à l'extérieur des processus en disant comme ça, je ne cautionne rien. De toute façon, nous sommes tous salariés d'une institution, donc on peut dire qu'à partir de là, on cautionne quand même le monde dans lequel on vit. Donc, voilà un petit peu la démarche, la dialectique, qui est aussi une entreprise difficile, parce que à chaque jour, on peut se poser la question de sa légitimité. Je continuerai en tant que citoyen à œuvrer dans les associations qui militent pour le respect du droit d'asile. Par ailleurs, je suis président du comité d'aide aux intellectuels réfugiés depuis un certain nombre d'années. Je suis engagé dans la question du droit d'asile et aussi pour une politique d'immigration plus ouverte et plus généreuse. Et en même temps, je me retrouve dans ce lieu pour essayer de l'infléchir dans la direction qui me semblera la meilleure. Dans le passé, j'ai travaillé beaucoup de choses de ce type-là. J'ai notamment travaillé pour la télévision. J'ai fait 40 documentaires pour la télévision sur l'histoire de l'immigration, qui étaient financés par le Fonds d'Action Sociale, qui sont
passée sur la chaîne FR3, entre minuit et demi et 2h du matin à peu près. Et je m'étais rendu compte à cette occasion-là combien il était difficile de maintenir un équilibre entre tous les producteurs de mémoire. Hein. Il y avait des tas d'intérêts en jeu, notamment économiques, puisqu'on sait le nombre de chômeurs qu'il y a dans le monde des réalisateurs de télévision. Vous vous rendez bien compte qu'il y avait là un enjeu tout à fait essentiel. Donc, je pense que la dimension critique, voilà comment je conçois une pratique démocratique. Un certain nombre d'acteurs se retrouvent dans un lieu comme celui-là, mais chacun y est pour son propre compte. Et on évite la confusion des genres, on essaye de s'ouvrir aux autres pour comprendre leur démarche, et on avance à partir de cette dialectique. Je pense que dans, j'avais vécu d'ailleurs ça, que dans cette logique, eh bien, la distance critique et l'autonomie professionnelle de l'historien peuvent être des atouts précieux pour que le navire maintienne son cap. Je donnerai juste un petit exemple. Constamment, quand j'ai travaillé, donc ça fait voilà, longtemps, c'était dans les années 90, il y avait une pression de la part de réalisateurs qui étaient issus de l'immigration maghrébine, comme on dit, disaient, c'est nous qui devons faire ça parce que c'est les maghrébins les plus malheureux. Hein? Voilà le type d'argument que je n'ai jamais accepté. Parce que, vous voyez, la pression qui était mise par rapport à l'autonomie d'un projet culturel, une sorte de logique, de porte-parole qui était au service d'intérêts très particuliers et qui déviait l'objet, parce que nous, on voulait montrer la diversité de cette histoire et on ne peut pas se focaliser, même si, pour le coup, les problèmes sociaux pouvaient être le plus fort de telle ou telle catégorie, ça ne devait pas être un critère pour déterminer un projet à caractère culturel. Et cette dialectique et ce lien entre les différents acteurs, on peut aussi le trouver en sens inverse. Je pense que les partenaires non universitaires dans un tel projet, la cité d'immigration, ont un rôle à jouer pour éviter les dérives auxquelles peuvent conduire les jeux de concurrence propres au monde académique. Parce qu'évidemment, le monde universitaire est un monde qui fonctionne comme les autres, c'est-à-dire avec des rivalités, des chapelles, des réseaux de pouvoir, des enjeux symboliques, de publication, de préséance, etc. Bon. Je n'insiste pas, que si on a les deux pieds là-dedans, eh bien, on finit mal en général, c'est-à-dire à l'Académie française. Je présente, c'est le rêve de tout un chacun, bien sûr. Vous savez, même Brodel, qui avait dit beaucoup de mal de l'Académie française, dans sa jeunesse, a fini par l'intégrer. Donc, pour ça, je pense que la pluralité, là j'insiste là-dessus, puisque ça montre bien comment... Pour moi, il est absolument nécessaire de conjuguer l'histoire à la mémoire et qu'il n'y a absolument personne qui veut présenter quoi que ce soit maintenant, pas de mon côté, eh bien, c'est le respect du pluralisme et de la diversité des apports de chacun qui me paraît essentiel. Maintenant, la deuxième élément, c'est qu'est-ce qu'un historien peut apporter dans une structure mémorielle de ce type-là. Comme je l'ai dit, le rôle des historiens, à mon avis, ce n'est pas d'expertiser la mémoire. C'est-à-dire qu'on le voit en fonctionnement, j'espère qu'un jour on aura un jeune sociologue qui nous fera une recherche là-dessus, j'en ai incité plusieurs à le faire, une sociologie de la fabrication de cette cité d'immigration serait extrêmement instructive, parce que on voit bien la complexité, si vous voulez, quand vous êtes dedans, vous jouez le jeu, la mise en musée, la muséographie, bon, l'historien n'a aucune compétence là-dedans. Mais on est donc dans la dépendance par rapport à des professionnels. Donc, je pense, malgré tout, dans un lieu comme ça, il est important de promouvoir la recherche, et c'est pour moi un enjeu extrêmement important, mais je pense qu'il y a une dimension libératrice dans la recherche. Et je pense, le mot recherche, si vous voulez, pas au sens académique. Hein. Même le terme recherche scientifique me paraît légitime, mais pas au sens académique. C'est plus au sens proustien, si vous voulez, hein. La recherche du temps perdu, c'est-à-dire une démarche sur soi-même. Hein. Et les gens les plus motivés dans l'histoire de l'immigration, c'est très net, sont aussi, évidemment, les gens qui s'investissent dans ce domaine, parce que c'est une question qui les préoccupe. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se situer dans une histoire. Et ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à ces nouveaux objets qui finissaient par être académisés, on pourrait dire, eh bien, très souvent, c'est effectivement parce qu'il y a une dimension personnelle. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important, parce que moi, j'en suis le produit, si vous voulez, d'une sorte de libération par la recherche historique, une manière aussi d'arriver à mettre à distance un certain nombre de choses qui pesaient terriblement dans votre propre existence personnelle. Et la dimension scientifique, la recherche, peut être
un moyen de se libérer. C'est ce que je dis souvent aux étudiants qui viennent me voir pour faire des thèses, etc. Très souvent, quand ils sont issus des immigrations sur lesquelles pèse le plus la stigmatisation aujourd'hui, eh bien, ils viennent pour répondre aux journalistes. C'est la première démarche. Et je leur dis, non, justement, il y a quelque part toujours ça qui reste. C'est ce que Sartre appelait la nécessité de se justifier d'exister. Mieux aussi que Camus a beaucoup utilisé. Eh bien oui, mais justement, faut que ce soit par un détour, par le détour de la recherche, non pas pour alimenter, et le faire en tant que militant, bien évidemment. Et je pense qu'il y a un espace spécifique qui est celui de la science, qui est celui donc d'une démarche critique, qui est aussi critique par rapport à soi-même, par rapport à sa communauté, etc., etc., qui fait partie, au sens fort, de la dimension scientifique. J'ai été dizaines d'années enseignant dans le secondaire, et je faisais partie des groupes qui militaient pour le droit à la recherche en enseignement secondaire. Ce sont des causes qui, moi, me paraissent essentielles, y compris d'un point de vue civique et politique. Donc, si vous voulez, cette démarche impulsée au sein de la cité, enfin, c'est le rôle que j'y vois, pour ma part, c'est justement de faire en sorte que dans un lieu qui ne sera pas académique, on ne va pas attendre le nombre d'agrégations, de concours, de machins, etc., qui pèse terriblement en France dans le milieu, puisse être un espace où on mettra le pied à l'étrier un certain nombre de gens pour passer de la mémoire à l'histoire. Je participe à un projet au sein de la cité, un projet dit de formation, qui est justement tourné vers les gens qui, dans les associations, on a aussi un projet de facile autour de tout ça, qui sont dans les associations, et qui au début, évidemment, viennent, ils vont recueillir leurs vieux papiers, ils vont faire interviewer leur grand-mère, etc., etc., pour une démarche qui parte de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils savent, et de quelque part de ce qu'ils sont, pour élargir, pour universaliser la problématique, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'ouvrir les horizons, faire en sorte que les gens soient un peu moins intolérants, pour pas être trop ambitieux. On sait très bien aujourd'hui que le catéchisme antiraciste habituel, eh bien, il n'a plus d'effet, parce que c'est une routine, c'est récupéré dans tous les sens aujourd'hui dans les polémiques qui se livrent sur la place de Paris. Donc voilà, alors, je conclurai là-dessus en disant que la dimension de l'enseignement est liée à cela. J'ai fait une petite analyse des manuels scolaires, la place de l'immigration dans les manuels scolaires, c'est le dernier chapitre de mon livre qui s'appelle « Qu'est-ce que l'histoire contemporaine ?» Il est paru chez Hachette, ici, Paris Histoire. Donc, c'est l'édition des manuels paru à la fin des années 90, je crois, au milieu des années 90, cache de première terminale. Et il n'y avait rien, je veux dire, sur l'immigration, c'est-à-dire, quand on parlait d'immigration, c'était pour parler des États-Unis. Alors que proportionnellement, on peut dire que la France, l'immigration, proportionnellement, était aussi forte au XXe siècle en France qu'aux États-Unis. Donc là, j'étais à faire, ce qui était particulièrement frustrant pour moi et pour un certain nombre de collègues, que nous avons été invités dès les années 80 par Jean-Pierre Chevènement quand il était ministre de l'Éducation nationale, puis par Lionel Jospin quand il était ministre de l'Éducation nationale, à plancher sur, justement, la place qu'il fallait faire à l'histoire d'immigration dans l'enseignement d'histoire, et que tout cela est resté dans les tiroirs d'un bureau du ministère, d'une institution générale, je ne sais pas. En tout cas, ça n'avait abouti à rien. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je pense que, en partie grâce au savoir-faire de Jacques Toubon, parce qu'il faudrait étudier le savoir-faire d'un homme politique pour réussir à imposer, pour faire signer des décrets, enfin bon, c'est des choses que j'ignore totalement, j'en parle vraiment de l'extérieur, mais pour que les choses se fassent. Parce que cette histoire de musée d'immigration de cité, pendant 20 ans, depuis la fin des années 80, enfin, ça ne se faisait jamais. Donc, de concrétiser un projet, de faire en sorte qu'il aboutisse, c'est aussi un élément important. Et je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies, mais ça dépend aussi de nous et de vous, pour que, enfin, les choses changent à ce niveau-là. Alors, évidemment, se pose le problème, sur lequel on pourra débattre aussi, qu'est-ce que ça veut dire, enseigner l'immigration? Quel savoir on va faire passer dans les manuels? Est-ce qu'on va faire, comme aux États-Unis, les contributions des communautés? Réfléchis à tout ça. Mais où s'arrête et où commence une communauté? Qui est-ce qui va définir l'autorité? Ce que ça veut dire, communauté? Alors même que dans toutes les communautés, vous avez des individus qui disent « je ne fais pas partie de la communauté ».
Toutes les immigrations ont été traversées par d'énormes contradictions, où les uns allaient mettre leur engagement politique en priorité, d'autres allaient se réclamer du village dont ils étaient issus. Vous savez que beaucoup d'Italiens se sont découverts italiens en France, ou aux États-Unis, et pas en Italie, ça ne voulait rien dire. On parlait des dialectes, etc., des langues locales, etc. Bon, c'est vrai pour les Polonais, c'est vrai pour les groupes, y compris pour des immigrations beaucoup plus récentes, on n'aborde pas ce terrain. Donc, voyez la difficulté. Quel savoir? Qui va trancher ces questions-là? Je veux dire, comment faire? Voilà des questions très concrètes. Moi, la perspective pragmatiste que je défends, c'est que nous devons être capables, en tant qu'historiens, de nous mettre d'accord sur un minimum de connaissances que nous estimons importantes à faire passer dans les mondes. Et je sais très bien que cette solution, elle peut être critiquée beaucoup, etc., en disant que c'est de l'académisme, de la prétention, tout ce qu'on veut, mais le nombre des solutions que nous avons à notre disposition pour accomplir ce travail très concret, synthétiser des connaissances, les mettre à la disposition des enseignants et des enfants dans les écoles, eh bien, il n'est pas infini. Et ce lien entre l'enseignement, disons, supérieur, ou entre la recherche, plus précisément, et la pédagogie, je crois qu'il est extrêmement fondamental à développer dans les deux sens. C'est aussi un des enjeux, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles nous avons créé le comité de vigilance, parce qu'il doit y avoir une dialectique, évidemment, aussi entre la pédagogie, les motivations, les savoirs des enfants, comment vont-ils s'approprier l'enseignement qu'on va leur proposer, etc., et ce qui peut avoir été élaboré au niveau de la recherche. Donc là, nous sommes, je dirais, encore dans une phase qui est extrêmement ouverte, parce qu'en fait, il y a très peu de choses là-dessus. Hein. Et il y a eu beaucoup d'idées générales qui ont été brassées, mais des recherches précises, des groupes de recherche, constitués autour d'objets très précis pour voir comment faire passer cet enseignement, nous n'avons pas tellement d'éléments à nous mettre sous la dent. Le dernier point, c'est évidemment que ça va engager aussi l'immigration. C'est pas soit on en fait un chapitre à part, mais alors là, est-ce que c'est le but de l'opération, soit on en fait pas un chapitre à part, mais alors là, ça va poser des problèmes par rapport à la conception globale de l'enseignement de l'histoire. Parce qu'on a eu un retour en force, disons, je ne vais pas assez sur les détails, mais d'histoire politique. Je vais vous donner un exemple. Le protectionnisme. Hein. Moi, on m'avait déjà appris quand j'étais élève, le protectionnisme à la fin du 19e siècle, c'est les droits de douane. Les tarifs Méline. Bon, eh bien, ça fait 20 ans que j'écris, etc., que c'est beaucoup plus fondamental que ça, le protectionnisme à la fin du 19e siècle. C'est une réorganisation complète de la société. C'est le moment où l'État intervient dans la société pour définir un droit du séjour, un dedans, un dehors, etc. Donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes d'immigration, les clandestins, ça, tout ça est né à la fin du 19e siècle. Et donc c'est fondamental, et on peut parler, évidemment, en parlant de cela, à des enfants d'aujourd'hui qui vivent dans un univers souvent hanté par la question des papiers d'identité. Donc, ce n'est pas un problème spécifique aux immigrés, c'est un problème universel. Donc on peut très bien, à partir de la question de l'immigration, tirer des éléments qui vont donner aussi un accès à l'universel. Moi, je crois, républicain dépassé aussi sur ce plan-là, mais je crois beaucoup à la nécessité de maintenir dans l'enseignement le cap sur l'universel, un universel concret, je dirais, à partir d'éléments que les gens peuvent vivre concrètement dans leur vie quotidienne. Et cet exemple-là, par exemple, est tout à fait significatif de la difficulté aussi de l'opération. Il ne suffit pas de rajouter un paragraphe sur les immigrés, mais aussi d'envisager, moi je dis, je travaille sur l'immigration, je ne travaille pas sur les immigrés, je travaille sur un processus historique qui, en plus, nécessite aussi une ouverture internationale, enfin je passe, et qui nécessite aussi d'appréhender globalement l'enseignement d'histoire autrement que dans une perspective d'histoire événementielle telle qu'elle est revenue à la surface aujourd'hui. Pour tout ça, je dirais, personne n'a de solution toute faite dans la tête, mais ce sont des chantiers d'investigation sur lesquels nous pourrions nous retrouver. Le dernier point, je terminerai là, c'est aussi la tendance, je l'avais analysé dans ces manuels, à exposer, alors maintenant dans les manuels, ce qu'on a, c'est, maintenant on a des documents sur la page de droite, donc là on peut avoir des points de vue contradictoires. Bon. Mais sur la page de gauche, on a la vérité révélée, avec un grand V. Voilà la science, la vérité. Eh bien, je crois qu'on ne perturberait pas fondamentalement les enfants si on leur montrait que, surtout, sur certains points, il y a des différences entre les historiens. C'est aussi, moi, je trouve quelque chose de très important de montrer que la vérité historique telle que la défendent les historiens, évidemment, on a beaucoup évolué depuis Gabriel Monod ou Charles Sénoubos, mais l'idéal de vérité, d'objectivité, moi, me semble toujours défendable aujourd'hui. Mais il faut le voir comme un point de fuite à l'horizon. Et ce point de fuite à l'horizon, eh bien, il passe par aussi par admettre qu'il puisse y avoir des perspectives différentes sur un objet. Et ça, c'est pratiquement jamais fait. On ne présente jamais, alors même que c'est un élément important pour apprendre par l'intermédiaire dans ce monde d'histoire, une sorte de, pas de relativisme, hein, je ne dirais pas ça, parce que là, ce serait exagéré, mais un peu de recul, de mise en perspective du travail à l'œuvre dans le métier d'historien. C'est-à-dire, c'est un travail sur la connaissance. Et comme on dit, voilà la vérité jusqu'à preuve du contraire, hein. Mais preuve du contraire, ça veut bien ce que ça veut dire. Encore faut-il administrer la preuve du contraire par rapport à des recherches. Donc c'est ce travail de la recherche, c'est que Marc Bloch croyait beaucoup à cela, hein, croyait beaucoup à la pédagogie de la, du travail scientifique, c'est-à-dire inculquer aux citoyens aussi le, la façon dont on travaille pour construire une connaissance. Ça manque terriblement, je trouve, ça manque aussi d'ailleurs, souvent chez les historiens eux-mêmes, mais ça manque terriblement aussi dans l'enseignement. Donc c'est des éléments qui ne sont pas forcément directement liés au contenu d'immigration au sens étroit, mais qui sont liés à cet objet par rapport à la dialectique aussi de la construction de la connaissance telle que nous le défendons. Voilà.